Bonjour, bienvenue dans Circonvolution, le nouveau podcast sur le cirque contemporain suisse. Circonvolution, c'est à la fois l'idée de mouvement, de rotation, comme autour d'une planète. C'est aérien et ça bouge, comme au cirque. C'est cérébral aussi, une pensée en évolution. À l'image de ce titre, ce podcast veut apporter une réflexion sur le cirque contemporain suisse et son évolution. Décortiquer cet art en mouvement, raconter la vie d'artiste par les artistes, explorer les divers métiers liés et surtout soutenir cet art en plein essor. Moi, c'est Estelle Borel et je suis aussi artiste de cirque. Pour ce deuxième épisode, je suis allée en décembre dernier au TLH Sierre en Valais car il y avait des compagnies en résidence pour le festival en cirque qui aurait dû avoir lieu en décembre mais qui a été reporté à cause de la pandémie au mois de juillet prochain, du 20 au 25 juillet. Le théâtre accueillait la compagnie Ici-Bas et la compagnie Digestif. Et du coup, j'ai profité pour rassembler quelques artistes circassiennes. Il y avait Karina Pouza et Jennifer Skolowski de la compagnie Digestif. Et puis Sarah Simili, qui est programmatrice du festival en cirque. Et j'ai invité aussi Hélène Gela, qui a ses attaches en Valais également, mais qui vit à Montréal et qui était de passage en décembre. Nous avons parlé ensemble de notre expérience en tant que femme de cirque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi la compagnie Digestif, avec Jennifer Skolowski, Karina Pouza, et puis Sarah Simili et Hélène Gela. Alors, bienvenue, merci d'être là avec moi aujourd'hui.
Merci à toi.
Toutes ces femmes valaisannes de cirque, ça fait plaisir. Je vais vous laisser vous présenter les unes après les autres, du coup. On commence avec toi, Karina, ça va?
Oui. Moi, c'est Karina, je suis ovalaisanne. J'ai fait d'abord une école de danse et puis j'ai fait en 2009, j'ai fini l'école Dimitri.
Moi, c'est Sarah Simili. Ma première anecdote de cirque, c'est que ma maman a eu les contractions pour moi quand elle était à la ménagerie du cirque CNI. Donc, du coup, j'ai commencé bientôt et j'ai retrouvé le cirque à l'âge de 13-14 ans en loisir. Et j'ai continué avec des études universitaires, mais parallèlement, j'ai fait toujours du cirque. Et j'ai monté l'école Arsenic à Monté. Et maintenant, je dirige ma compagnie Courant de Cirque, qui fait plein de projets entre des festivals, des rencontres de jeunes, etc.
Entre autres, le festival en cirque qui aurait dû avoir lieu maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toutes là aujourd'hui, parce qu'il y avait Jennifer et Karina en résidence au TLH. Dans le cadre justement du festival qui aurait dû avoir lieu et qui malheureusement, merci Covid, a été reporté en juillet, du 20 au 25 juillet. Donc voilà ce que... Jennifer, tu peux te présenter aussi s'il te plaît.
Oui, avec plaisir. Voilà, moi je suis Jennifer, moi je suis tombée dans le cirque, je ne sais pas si on peut dire ça, je suis plutôt glissée dans le cirque. Et mon grand hobby depuis toujours, depuis que je suis toute petite, c'est les animaux. Et du coup, après que la formation Dimitri, j'étais intéressée ou attirée par une école qui est une école de cirque avec des animaux. Et ça m'a beaucoup plu et je suis allée là-bas pour travailler principalement avec les animaux et apprendre leur approche. Et c'est là, comme ça que j'ai c'était un peu ma porte pour le cirque.
Très bien, merci.
Moi, c'est Hélène Gela. En fait, je suis un peu une fausse valaisanne, mais donc je suis née au Jura. Puis, c'est au Jura que j'ai rencontré le cirque Knopf, qui a été mon coup de cœur, puis mon rêve, en fait. Quand j'ai appris qu'ils engageaient aussi des jeunes pour faire une première expérience de cirque, j'ai couru là-bas, j'ai fait les auditions, puis j'ai eu la chance de faire cette expérience, ce qui, en fait, m'a accroché complètement à faire du cirque. Puis ensuite, j'ai déménagé en Valais. C'est là que j'ai pu me perfectionner un peu à Zofie. Et ensuite, j'ai fait des auditions pour aller à l'École nationale de cirque de Montréal. Et depuis, je suis restée à Montréal. Mais je rentre quand même ici de temps en temps. Puis là-bas, avec mon copain Vincent Jutras, on est en train de monter une petite compagnie qui s'appelle La Croustade. Donc voilà.
Merci. Du coup, je constate qu'on est toutes des femmes très créatives et créatrices, n'est-ce pas? Parce que chacune ici a déjà monté des projets personnels ou est en train de monter un projet personnel. Et puis chacune ici a des diplômes. Et puis chacune ici
travaillent de façon assez indépendante, en tout cas celles qui ont des compagnies. Et puis, j'avais envie de mettre en avant ces parcours et de regarder dans le cirque spécifiquement qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, aujourd'hui, en 2020, d'être une femme. Parce que on n'a pas pu ne pas voir et remarquer qu'un petit vent de révolution souffle aussi dans le cirque contemporain. En tout cas, moi, ça ne m'a pas échappé. Le cirque a aussi son petit hashtag MeToo et son examen de conscience à faire. Et puis, plus les conversations avancent avec mes collègues, mes amis et d'autres femmes qui font du cirque, plus je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait des parcours croisés, des expériences aussi, parfois similaires, et puis, qui est important et intéressant d'en parler. On sait que le cirque, il est souvent perçu comme progressiste, hyper avant-gardiste, un peu marginal, voilà. Et puis en vrai, eh ben non, on ne fait pas exception à tout ce qui se passe en ce moment dans la société, à toutes les prises de conscience, toutes les différentes luttes qu'on a embrassées pour essayer de faire un monde un peu plus égalitaire. Et puis du coup, les femmes ne font pas exception aux discriminations, aux violences. Je vais vous parler une ou deux anecdotes que j'ai vues. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes familière avec le Festival du Cirque de Demain à Paris. Mm-hmm. Mais il y a, je crois, 2 ans de ça, en tout cas, il y avait eu pas mal de critiques par rapport au quota homme-femme dans ce festival, parce que chaque année, il y a énormément d'hommes et très peu de femmes. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a 2 ans. Et puis, il y a 2 ans, comme pour un peu prouver le contraire, le festival a fait venir en ouverture de tableau le collectif Portée de Femmes, qui est un collectif français où elles sont, je crois, 14 sur scène à faire des portées. Et puis, ce collectif était d'abord super, elles étaient super heureuses de pouvoir participer à un tel événement. Elles ont préparé, elles ont répété. Et dans leur passage, il y a un passage où il y a des nichons, des nénés. Ouh là 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 là. Et du coup, on leur a dit que c'était pas possible, qu'on peut pas sur Arte à 20h montrer des seins, même une fraction de seconde sur scène, même si c'est de l'art, même si c'est du cirque. Et on leur a demandé de ne pas le faire. Et puis, elles ont quand même décidé sans faire de le faire. Moi, je ne l'ai pas vu parce que ça a été coupé au montage. Donc, en fait, le festival, pour contrer les critiques, a engagé des femmes, plus de femmes. Ils se sont dit, super, 14 d'un coup, ça va être génial. Mais elles ont été coupées au montage. Et du coup, personne n'a pu voir ce qu'elles ont fait en ouverture de ce festival. Et je trouvais ça assez représentatif, finalement, de ces difficultés et cette façon qu'on a des fois d'invisibiliser les artistes femmes dans le cirque. Ensuite, j'ai vu cet été un spectacle à Crans-Montana qui s'appelle Dans ton cœur, d'Acro et Acro. Et c'est un spectacle qui a fait beaucoup polémique à Hoche, au festival de cirque d'Hoche en France, parce que beaucoup d'artistes ont trouvé très sexiste et puis profondément sexiste et irrespectueux envers les communautés LGBT. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cet été. Moi, j'ai vu le spectacle aussi et je trouvais que, bien sûr, la virtuosité des artistes était exceptionnelle, la technique incroyable, mais le fond du propos et les propositions qu'ils ont fait sur scène, pour moi, posaient problème par rapport aux représentations des genres. Et puis, du coup, je me suis dit, il y a quand même là aussi, une critique à apporter dans les spectacles. Ne serait-ce que par le nombre d'hommes sur scène, parce que dans Acro et Acro, dans ton cœur, ils sont au moins 11, 12 hommes pour une seule femme. Et puis du coup, ça m'a interpellée aussi qu'en 2020, ce soit encore le cas, parce que ça fait longtemps qu'on le dit qu'il y a beaucoup plus de femmes, souvent dans des rôles déjà qui sont liés à des injonctions de la société où elles sont souvent là pour être la fille belle, mince, jeune, enfin voilà, mais au-delà de ça, c'est souvent des hommes quand même, plus sur scène. Et puis du coup, cet été, en même temps que ça, s'est passé aussi un phénomène au Québec qui m'a interpellée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu toute une sorte de mouvement qui a été lancé par les artistes elles-mêmes et eux-mêmes, parce que c'est aussi des hommes, justement par rapport à toutes les violences sexuelles dans le monde du cirque, et puis les discriminations. Et voilà. Et ils ont, en fait, ces artistes-là ont créé une plateforme sur Instagram et sur Facebook qui s'appelle Victim Voices Circus. Et c'est un espace virtuel pour les personnes qui ont été victimes de harcèlement ou abus sexuels, pour pouvoir échanger, parler, témoigner, trouver de l'aide, une écoute. Et voilà. Et c'est vrai que ce mouvement a eu pas mal d'échos. Il y a eu des articles dans la presse. C'est venu jusqu'ici aussi. Et puis, tout ça fait que, en même temps
J'ai entendu tout ça. En même temps, ben, la programmation dans Cirque, elle est aussi très féminine cette année et avec un caractère très féministe aussi. Du coup, j'avais envie de parler avec vous de tout ça parce que je trouve intéressant d'avoir le vrai point de vue interne, finalement, de femme de cirque que vous êtes. Donc voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu tous ces exemples? Est-ce que chez vous, ça fait écho avec des expériences? Oui, Karina?
En fait, peut-être je reviens un peu sur le parcours, mon parcours personnel, comment je suis arrivée au cirque. Quand je faisais la danse, j'ai fait 15 ans de danse. Et j'ai jamais trouvé vraiment ma place dans la danse classique parce que, justement, ce que tu as dit par rapport à ces rôles qui sont déjà donnés, la plus légère, elle se fait porter par le reste ou par les mecs. Il y en a toujours dans une classe 20 filles et peut-être un garçon aussi pour les auditions. Tu dois te battre pour trouver une place et les garçons, il y a 4 places et il y a 4 garçons dans les auditions et il y en a 200 filles pour les auditions pour avoir une place. C'est beaucoup plus difficile d'entrer pour des auditions, pour des écoles. Et puis, moi, j'ai tout de suite remarqué que tout ça d'être jolie, léger, ça ne m'allait pas. Moi, j'ai toujours cherché un peu, peut-être aussi pour provoquer le contraire, de prendre des formes bizarres, de plutôt montrer mes muscles, de plutôt être moche que jolie, que léger, de faire du bruit. Et c'était très difficile pour ma mère, qui est quelqu'un de très fine aussi, de très transparente, qu'elle se cache, qu'elle essaie de ne pas se faire trop remarquer. Et du coup, elle avait une fille qui a cherché de faire le contraire. Et puis, elle ne m'a pas poussée de faire la danse classique. C'était un truc que j'ai beaucoup aimé. Mais avec le temps, quand je suis grandie, j'ai remarqué que j'aime bien danser, j'aime bien faire la danse classique, mais ce n'est pas ma place. Je suis le clown du groupe. Du coup, tout le monde m'aimait, mais c'était clair que je ne vais jamais devenir danseuse classique. Et puis, j'avais heureusement des profs qui ont vu ça et qui m'ont aussi dit... En fait, toi, plutôt danse contemporaine, et plutôt peut-être le théâtre. Et puis heureusement, quelqu'un m'a dit pour le théâtre du mouvement, c'est pour ça que je suis allée chez l'école Dimitri. Puis l'école Dimitri, il y avait aussi un peu de cirque, et c'est pour ça aussi que je suis un peu tombée là-dedans. Et comme j'avais toujours le problème, comme une petite fille très maigre dans l'école, j'avais pas des formes de femmes. Et moi, je voulais avoir des formes de femmes. Et parce qu'ils m'ont dit, squelette, trop maigre, t'es boulimique et tout ça. Et du coup, je voulais faire la forte. Et dans le sport, ils m'ont choisi jamais. Moi, en premier, j'étais toujours la dernière parce qu'elle est de toute façon très faible, cette fille. Alors, moi, je voulais aller au militaire, au service militaire, pour montrer à tous les garçons, moi, je suis costaud, moi, je suis forte. Et après, dans le cirque, évidemment, moi, je pouvais me muscler et montrer mes muscles, montrer que je suis forte. Avoir ce moment où les gens, ils regardent, ils disent « Waouh !» Et après, ce n'était pas le but juste pour le ego de faire du cirque parce que moi, après, j'ai vu le cirque classique. Ouais, c'est extraordinaire, mais après, ce n'était pas ma passion. Mais comme avec la danse que tu peux t'exprimer et avec le cirque contemporain aussi, tu peux raconter des choses et ça m'a vachement touchée. Et depuis là, j'avais plus envie de quitter. Et du coup, je reprends ce que tu disais par rapport au rôle fixe et de se faire la place comme femme aussi. Sur le plateau, quand tu installes ton agrès, tu as des techniciens autour de toi et tu dois comme prouver que tu sais comment faire. Tu sais bien, tu connais bien les outils, comment accrocher, comment... En fait, tu sais mieux peut-être qu'un technicien qui ne s'occupe pas du matériel du cirque. Et oui, on est encore dans la phase de se prouver. C'est pas évident qu'une femme, elle sait faire ça.
Ben non, mais c'est par rapport au rôle aussi et tout ça. Moi, c'était moins dans le cirque que que j'ai croisé ces envies de prouver, mais vraiment à l'école, quand j'étais petite. En fait, le moment où j'ai réalisé que d'un coup, il y avait une différence un peu entre les deux sexes, en fait, je me questionnais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi à un tel moment, à la gym, d'un coup, de toute façon, les mecs étaient plus, censés être plus forts, gagner en hauteur, gagner le match de foot ou comme ça. Et ça m'avait vraiment révoltée un peu. Puis du coup, je travaillais fort comme toi à dire non, c'est pas toujours lui qui va être le premier de la classe en sport, parce que soi-disant, il y a quand même des différences de corps, là, c'est sûr, mais je voulais pas accepter ça et je voulais pas, et je restais même à la récréation parfois pour faire des bras de fer, juste pour que la personne qui gagne le bras de fer, c'était une femme. Et c'était vraiment les premières fois où que j'ai constaté cette différence que notre société veut aussi. Et pareil, ben, soit en hauteur, il fallait que je me botte les fesses pour montrer que non, c'est pas toujours un gars dans la classe qui va avoir le meilleur résultat. Et c'est, je pense, comme ça que j'ai développé un corps athlétique un peu aussi, par volonté de ne pas laisser toujours l'homme gagner.
Est-ce que, Hélène, j'ai vu sur ton site, tu as écrit que tu avais été à l'école de cirque de Montréal pour dompter ton corps quelque peu atypique, hein, tu l'as écrit comme ça. Mmh. Et je me demandais du coup, par rapport à ce corps que tu décris atypique, là, les personnes qui nous écoutent peuvent pas voir ton corps, mais moi, je te connais un petit peu et je t'ai vu le contorsionner parce que tu fais de la contorsion. Ouais. T'es très, très souple et très forte à la fois parce que tu fais aussi du ma chinois. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un peu plus par rapport à ton corps, comment tu l'as dompté, et est-ce que tu as eu dans ton parcours des remarques par rapport à ton corps particulière qui t'ont marqué, ou des injonctions qui t'auraient dérangé?
Juste le fait que maintenant tu redises ma chinois, je me rappelle, en fait, quand j'ai choisi la discipline de ma chinois, j'avais aucune conscience que c'était une discipline plutôt d'hommes. Et du coup, après, on me l'a dit, mais d'habitude, c'est plus les hommes qui font, non? Et, moi, non, j'ai envie de faire ça, parce que quand j'étais petite, je grimpais dans les arbres, et puis c'est ce qui s'apparente le plus à un arbre dans le cirque, donc j'ai envie de grimper là-dessus. Donc ça, c'était une première réflexion qu'on m'a fait. Mais souvent, de façon naïve, en fait, je suis mon petit chemin et puis j'arrive à mes désirs. Mais... Donc pour en revenir au corps, en fait, par le clown, hein, on peut faire passer beaucoup de choses, je crois. Du coup, alors j'ai fait rigoler en faisant des positions différentes. Puis ça m'a éloignée du côté, du coup, ma chinoise, souplesse, pole dance. En fait, à chaque fois que je disais que je faisais du machinois puis que j'étais contorsionniste, ben, les gens avaient l'image du pole dance et des grands écarts et du côté sexy et tout ça. Donc c'est par le clown un peu, puis la contorsion, d'un côté absurde un peu, que j'ai pu m'en éloigner. Mais des remarques en tant que telles, pas tant. C'est sûr que mes profs au début comprenaient pas vraiment pourquoi je faisais pas... des choses fluides, dans du mouvement et tout ça. Et finalement, c'est ça, je les ai embarqués avec moi, et puis on a trippé à faire rire plutôt que d'écarter mes jambes langoureusement devant le public.
Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. En même temps, si t'as pas envie de le faire, bah, heureusement non, que t'es pas tenu de le faire.
Ouais, non, mais j'ai pas trop senti ce jugement-là. Ouais.
Heureusement.
Ou je l'ai pas vu. J'ai pas eu envie de le voir peut-être non plus.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes les deux, vous avez des corps athlétiques et vous avez les deux trouver une place grâce à ou avec ça et en faisant le clown. Mm-hmm. Je trouve vraiment intéressant parce que moi, c'est le contraire. Moi, je ne suis pas clown du tout, ou je ne me vois pas comme clown. Et moi, quand je bouge, c'est toujours sensuel. Je n'ai pas du tout un corps où c'est naturellement, je vais plus vers ça. Après, je ne dis pas, c'est pas toujours sensuel, mais c'est plus un truc... oui, c'est pas très... C'est toujours typique femme. Mm-hmm. Parce que moi, mm-hmm. quand nous deux, on travaille, on est des clowns. Mais pour trouver ma place dans notre couple, c'est compliqué. Je ne suis pas un homme. Je suis plus petite qu'elle, je suis la porteuse. Comment trouver là un rôle qui fonctionne? Parce qu'on est les deux femmes. Elle, si on veut voir les rôles, elle est plutôt auguste. Moi, ça veut dire que je suis plutôt clown blanche, mais ça ne me plaît pas, je ne me sens pas bien là-dedans. Donc, on a travaillé longtemps pour trouver qu'est-ce qu'on est exactement, où on se place aussi sur scène, aussi de comment on fonctionne sur scène, parce qu'on est, des filles et c'est différent. On n'a pas la différence de taille que les couples classiques qui fonctionnent. Et tout d'un coup, tu te retrouves sur scène avec les mêmes problèmes que tu peux rencontrer dans la vraie vie. Du coup, nous, on a un métier où vraiment on est tout le temps, tous les jours, confrontés. Qui je suis? Comment je suis faite? Quelles sont mes qualités de mouvement? Qu'est-ce que ça raconte? Et je trouve que ça, c'est une chance et en même temps, ça peut vraiment être une source de malheur aussi, et ça peut être douloureux. Parce que je me rappelle quand on a commencé l'école Dimitri, parce que moi, je ne viens pas du tout du mouvement. Moi, le mouvement que j'ai fait, c'est faire du vélo et faire du cheval et marcher. Mais sinon, les mouvements artistiques, c'était la première fois quand j'allais à l'école Dimitri, de me voir tous les jours, toute la journée, devant un miroir, faire des mouvements, devoir regarder mon épaule gauche, après mon pied droit, après comment je bouge. C'était horrible. C'était vraiment une torture pour moi de devoir... Et je rigolais, j'arrivais pas à me prendre au sérieux. Et je comprenais pas pourquoi je devais me rouler par terre maintenant de cette façon-là ou là. J'aime bouger, mais bouger dans un cadre, pour moi, c'est très compliqué. C'était toujours compliqué. Et oui, ça te remet tout le temps en question, en fait. C'est vrai. Et tu dois te mettre... tu dois te positionner aussi. Durant, comme tu disais, tu fais ton chemin, mais on est tout le temps en train de nous positionner face à une société, face aux hommes, face à... Et c'est comme on l'avait décrit, on est tous les jours dans une position, et ça, je pense qu'on doit vraiment changer. On est en train de prouver pourquoi nous, on pense qu'on doit prouver. Et ça, c'est le problème.
Ouais. Non, c'est vrai, on voit, hein, toi, t'as dû surcompenser quand même parce que t'avais l'envie d'être l'égale des garçons à cours de récré. En cours, dans les écoles de cirque, moi, je l'ai aussi vécu. C'est vrai qu'on est tout le temps confronté à notre propre jugement, mais aussi à celui des autres, mais tous les jours. Et puis, ça peut être effectivement parfois très douloureux parce que, voilà, il suffit d'avoir une remarque, parfois un truc. Enfin, c'est hallucinant ce que ça peut tout... vriller, switcher dans notre confiance en nous et puis dans la perception qu'on pense que les gens ont de nous. Et puis ça peut parfois être très délicat. Et puis ouais, et puis comme tu dis, on est encore là à devoir prouver finalement des choses qu'on ne devrait même pas avoir à prouver en fait. Une légitimité, une position, voilà, juste faire notre travail quoi. Sarah ?
Non, moi je trouve très intéressant en fait, comme tu dis quoi, les stratégies. Moi c'est vrai que je rejoins assez Eline quand j'étais petite en fait, sans avoir conscience en fait du prisme du genre, mais je me suis rendu compte que la facilité c'était de développer des caractéristiques masculines. Et du coup, je me suis coupé les cheveux, je me faisais passer pour un garçon, du coup j'avais accès au foot, j'avais accès au hockey. Et c'est voilà ce qui me portait, et j'ai continué en fait tout le temps à ça, même dans ma carrière professionnelle, parce que en fait on est tout le temps en train de se comparer à l'homme, et voilà, une des stratégies c'est de développer justement ces caractéristiques masculines, et moi ce qui m'a importé c'était d'être libre et indépendante, et d'être ça et de développer des compétences. Ben en fait, t'attends le regard d'un père, d'un collègue et tout ça, et en fait c'est ce que je suis en train de travailler vraiment dur, quoi. C'est de dire non, en fait, ben, j'ai le droit d'exister en tant que ce que je veux, en fait. Et à bas le genre, en fait, parce qu'on s'en fout, féminin, masculin, en fin de compte, d'être qui je suis et d'être reconnue pour qui je suis, en fait. Et voilà, et je trouve que le truc qu'on dit toutes, quoi, de devoir prouver tout le temps non-stop, c'est très fatigant. Il faut vraiment qu'on trouve une stratégie pour que ça change.
mais les premières fois que j'ai entendu parler un peu de féminisme et tout ça, j'avais aussi de la difficulté à comprendre parce que j'avais peur que d'un coup ce soit de nouveau la même guerre, à la place que ce soit les garçons au-dessus, d'un coup ça devient les filles et ça règle pas le problème. Et ouais, dans ce que tu disais aussi, dans nos places, nos personnages et tout ça, hommes, femmes et tout ça, et finalement j'étais, en fait, s'il n'y a pas d'importance, peut-être on s'en fout juste que ce soit un homme, une femme. Et puis c'est vrai que quand je réfléchis à mes premiers personnages où j'essayais de dompter mon corps, justement, j'y mettais pas de sexe quand j'y pensais, en fait.
Ça, je voulais dire aussi, c'est vrai que moi j'ai aussi fait un peu de clown et je trouve que le clown, il y a cette belle opportunité de pouvoir faire les choses sans devoir les définir. En fait, c'est vrai que pour moi, un clown n'a pas forcément de genre non plus. On s'en fout.
Ouais.
En fait, le clown, il est, puis bah, peut-être il est femme, et peut-être 5 minutes après, il est homme, en fait. Et peut-être qu'il est ni l'un ni l'autre, et peut-être que... Et je trouve ça drôle, oui.
Pour ma mère, au début, c'était très difficile que je faisais le clown, parce que c'est moche de prendre de faire des grimaces. Et du coup, elle vraiment... Bah, pour le public qui aime le clown, c'est égal qui sait qui fait le clown. Mais pour une mère qui veut être fière de sa fille, qu'elle est jolie, qu'elle est belle, de faire des choses moches, c'était pas très cool. Du coup, pour elle, c'était des choses moches, il y a un sexe. C'est l'homme qui peut faire. Mais une femme, elle peut pas faire des choses moches. Elle peut pas rôter non plus, elle devrait pas péter. Elle doit sentir
la fraise.
La fraise. La rose.
Les paillettes, le tutu, la totale.
Ouais.
Après, c'est mon expérience, comment j'ai vécu. Oui, bien sûr, on dit à tous les enfants, mais mon garçon aussi, il ne faut pas rôter à la table et tout ça. Pas que aux filles, mais je crois que c'est pire quand c'est une fille qui fait qu'un garçon. Un garçon, peut-être, c'est encore rigolo aussi.
Oui, après, si je transpose ça dans le cirque, eh ben, on a quand même des disciplines, comme elle a dit Eline, qui sont toujours attribuées à un sexe. Moi, je sais que quand j'ai commencé le cirque, j'avais déjà très envie de faire des choses qui sont en général attribuées aux femmes, comme le fil de fer, je suis fil de feriste. Mais longtemps, on m'a poussée en disant « Ah, mais quand même, Estelle, t'as des formes, t'es forte, t'es musclée, sois porteuse. Bah, » Non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de porter, j'ai envie de faire du fil. « Non, mais quand même, Estelle, tu es forte, tu as des formes, sois porteuse. » Eh ben non, j'ai pas envie. Voilà. Et puis ensuite, des années après, en fait, après avoir fait du fil et d'autres choses, et ben en fait j'ai adoré les porter et je me suis mis à porter, mais c'est parce que c'était mon choix. En fait c'était pas pour... c'est juste que là, à ce moment-là, bah j'avais envie d'autre chose et j'avais fait le tour un peu de ce que je pouvais faire en fil et j'avais envie de m'ouvrir aussi à des choses plus collectives et j'ai aimé porter des gens et encore maintenant, mais c'est vrai que c'était mon choix en fait. Mais le fait qu'on force encore maintenant des artistes à faire des choix en fonction de leur genre, parce que oui, alors bien sûr il y a des différences physiques entre hommes et femmes, c'est sûr qu'ils font que, testostérone ou hormones, etc., font qu'on peut plus vite arriver à certains résultats quand on est un homme, par exemple pour du machinois ou des choses qui demandent une force physique assez extrême, mais il n'empêche que, comme Maëline, on peut trouver d'autres façons de contourner et faire son chemin avec la souplesse, avec le théâtre, avec le jeu, et j'espère que ça va changer parce que j'entends encore maintenant, en 2020, parfois, des élèves ou des artistes qui me disent qu'on a essayé d'orienter leur choix en fonction de leur genre, alors que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient envie.
Et même chez les hommes, en fait. Par exemple, le tissu, un homme qui veut faire du tissu, il y a un moment, on dit comme...
Ouais.
C'est plus un truc de femme. Mais du coup, on en revient à ce qu'on s'en fout, finalement.
Ça va être ça. Puis en plus, s'il le fait, on va lui dire de le faire de façon virile, et je mets bien des guillemets sur justement ce qu'on attend de... Qu'est-ce que le viril ? Mais c'est vrai que...
C'est ça, le problème, il est sur une différence qu'on essaye sans arrêt peut-être de placer.
Après, ce que je trouve intéressant, que toi, tu as fait ton chemin avec des profs, genre tu les as pris embarqués avec toi, que, comme tu as dit, après vous avez ensemble expérimenté, si j'ai bien compris. Et en fait, si je reviens sur ma mère, elle a aussi fait, elle a évolué avec le public de nos spectacles. Parce qu'elle a vu, en fait, les gens, ils rient ou bien ils applaudissent de ce qu'elle fait. Du coup, elle a vu que, OK, il n'y a personne qui me parle mal de ma fille. elle avait besoin de ça, le soutien du public, qu'en fait, c'est pas si grave. Qu'en fait, au contraire, c'est chouette.
Wow.
Et puis maintenant, quand elle est dans le public, elle fait hey, « c'est ma fille ». Alors, au début, elle voulait se cacher. Et maintenant, elle... ouais. Au contraire, maintenant, elle... Je dois l'arrêter. Je dis, c'est bon. Il ne faut pas raconter à tout le monde tout ce que je fais.
Wow, mais c'est vraiment beau. Ça veut dire que ça donne espoir, que ça sert à quelque chose de montrer un peu autre chose, puis des exemples, et puis que ça peut faire évoluer les gens, quoi. C'est cool.
C'est vrai. Je rebondis là-dessus parce que, bah, du coup, je t'ai vu il y a 3-4 jours à Zurich. Eline a fait une présentation d'étape de travail au Circus Quartier à Zurich avec son compagnon Vincent. Et puis, j'ai aussi vu, en même temps, il y avait la compagnie Ici-Ba avec Christine et Mathias qui ont fait un petit extrait de ce qu'ils vont présenter la semaine prochaine ici au TLH. Et puis, il y avait aussi Janine qui fait un solo d'une heure avec Bal, parce qu'elle est jongleuse. Et puis, je me suis dit, après avoir vu ces trois aides de travail, ça m'a fait hyper plaisir de voir que ben, dans les trois, déjà, il y avait une femme et les trois ne collaient pas aux injonctions féminines habituelles qu'on voit encore souvent dans le cirque, en fait. Et ça m'a fait hyper plaisir de voir trois femmes badass faire du cirque à leur façon, avec leur corps, avec... ça m'a fait plaisir, en tout cas. Et du coup, ça me donne l'espoir de voir que quand même, malgré tout ce qu'on a raconté là, il y a quand même une évolution aussi. Et puis, les femmes prennent leur place et de plus en plus s'en fichent, en fait, de ces injonctions. Après, est-ce que sur le monde du travail, ça se répercute? Est-ce qu'on va être puni pour garder nos poils sur scène, sous les bras ou sur les jambes? Est-ce qu'on va être moins vu dans l'événementiel si on fait des choses clownesques et pas, entre guillemets, sensuelles ou jolies? Est-ce que, voilà, et moi, ça m'intéresse de voir, du coup, au niveau... réalité du travail hein, en Suisse et à l'international, ce qu'il en est par rapport à ça, justement, où est-ce qu'on en est avec les femmes de cirque au niveau professionnel. Il y a eu une étude qui a été faite au Québec, déjà par Alison Funk, qui est chercheuse responsable pédagogique à DOC, en Suède, c'est une école supérieure de cirque. Elle a fait un mémoire à Montréal sur le genre et le cirque, hein, s'appelle Gender Asymmetry and Circus Education. C'est sorti en 2018. Et là, elle s'était intéressée justement, pour le Québec, aux chiffres de genre et d'égalité dans les écoles de cirque entre Montréal, l'école de cirque de Verdun, c'est Verdun, et puis Québec. Et ce qui ressortait, en fait, c'est qu'en loisirs, dans les écoles de loisirs, il y a énormément de femmes. En général, c'est plutôt 80% de femmes, 20% d'hommes en école de cirque, de loisirs dans l'amateur. Et puis ensuite, quand on passe dans les écoles professionnelles, ça s'inverse. Et puis, dans le monde du travail, encore plus. Après, c'est vraiment... du coup, parce qu'il y a plus d'hommes en professionnel, il y a aussi plus d'hommes, après, sur le marché. Et les femmes sont sous-représentées et dans les écoles professionnelles et ensuite dans les spectacles, etc. Et puis, je voulais en discuter parce que on a la chance d'avoir Sarah avec nous. Et Sarah, en ce moment, a commencé un master en études de genre en France, à l'université. Et puis, du coup, elle s'est intéressée et elle va s'intéresser avec plus de détails et d'attention pour ce travail-là de master sur le genre ici en Suisse. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as déjà remarqué au niveau peut-être des écoles ou des professionnels ici en Suisse?
D'abord, j'avais déjà fait un état des lieux des arts du cirque en Suisse en 2015. Mon chemin personnel a fait que j'avais envie de revisiter cette étude sous le prisme du genre. Et puis, de faire un état des lieux en Suisse particulièrement, et puis de l'élargir à la francophonie dans un deuxième temps. Parce que je connais bien le terrain suisse et qu'on a un contexte qui est un peu différent en fait par rapport à la France qui est déjà dans une grosse institutionnalisation du cirque et nous on est un peu une friche . Et déjà de remarquer que le cirque contemporain a été un peu insufflé par les écoles de cirque. C'est vraiment elles qui ont amené cette nouvelle vague et qui ont fait parler, qui ont développé des publics parce qu'elles ont travaillé avec des jeunes, les parents sont venus voir et du coup, il y a eu une espèce de boule de neige qui est arrivée. et de remarquer en fait que les premières écoles de cirque qui ont été montées ont été montées par des femmes.
C'est juste, ouais.
Ouais, j'allais.
Voilà.
Yvette Chalande, qu'on salue bien.
René Pahu, Sophie, ouais. Voilà quoi. Des femmes qui ont monté ces écoles, ou alors des couples hein, comme.
Dominique.
Voilà.
Aux artistes cirques.
Exactement. Ou l'élastique citrique, ou voilà. Lausanne. Et puis de voir un petit peu bah, comment ça s'est développé. Alors j'en suis au tout début de mon enquête, hein, mais c'est vrai que si on regarde rien que. Ben, les chiffres de ProCirque, on a une parité exemplaire au niveau des membres actifs entre les femmes artistes et les hommes artistes. Par contre, dès qu'on creuse un petit peu plus loin et puis qu'on va voir dans les membres institutionnels, donc qui sont des compagnies ou des responsables de festivals ou de lieux de cirque, et ben là, tout d'un coup, la direction des femmes passe à 30%.
Mais est-ce que c'est pas parce que les femmes font des enfants?
Ah, voilà la
c'était la petite blague. Non, c'était la petite blague. Il fallait que je la fasse. Non, je rigole, mais c'est vrai que ces chiffres, ils sont assez impressionnants. En fait, il y a vraiment dans les institutions, donc lieux de cirque, festivals, théâtre, etc. Eh ben, il y a 50% de direction masculine, 20% de direction mixte et seulement 30% de direction féminine. Et je ne peux pas croire, vu qu'ici on est 5 et on en connaît plein d'autres des femmes de cirque qui ont les compétences, qui sont créatives, etc. Je ne peux pas croire que c'est juste pour une question de compétences ou de femmes au foyer. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un vrai problème et une vraie prise de conscience à prendre pour intégrer plus de femmes, pour donner plus de postes et responsabilité à des femmes. Et c'est la même chose dans un peu tous les domaines, en fait, que ce soit la politique ou les institutions autres, publiques, on remarque la même chose. Et il n'y a pas de raison que dans le cirque, on soit épargné. Donc je pense que c'est de plus en plus important d'en parler, sensibiliser et faire en sorte qu'on donne une vraie place et une vraie visibilité aux femmes qui font du cirque. Voilà.
Après, ce qu'il faut mettre en parallèle, en fait, c'est comment s'est développée, par exemple, la danse contemporaine ou l'art du numérique et de la vidéo aussi dans les autres pays et en même chose en Suisse, quoi. C'est qu'à chaque fois où il y a des savanes à défricher, c'est généralement les femmes qui montent au créneau et qui font la place. Mais dès que le domaine en particulier prend de l'estime, du prestige... et là, tout d'un coup, il y a justement l'arrivée des hommes. Et du coup, les femmes se... Bah, après, je vous dirai quand j'aurai étudié vraiment le pourquoi du comment, mais que, voilà, elles se font un peu pousser dehors. Hein. Et je crois que vraiment, où on en est, nous, avec nos légers retards, on dira sur la reconnaissance des arts du cirque en Suisse, c'est qu'on a maintenant quelque chose à faire, nous, femmes, pour garder cette place, en fait, et puis continuer. Donc... moi, j'ai pas envie de dire qu'en Suisse c'est catastrophique au niveau du cirque parce qu'on a vraiment tout à faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est que tout le secteur reste vigilant en fait, bienveillant et respectueux et voilà pour qu'on garde en fait cette égalité, cette parité qu'on nous a insufflé en fait dans les écoles de cirque loisirs. Enfin, moi, j'ai des souvenirs justement dans le secteur loisir où le genre n'avait pas tellement d'importance et que enfin nous, enfants de la balle du cirque contemporain en tout cas, on pourrait garder en fait quoi. Et on a l'habitude de travailler dans des collectifs, dans nos compagnies, donc pourquoi ne pas réinventer un petit peu les modèles de direction et puis de penser quelque chose de plus horizontal, de plus collaboratif, de plus collectif, mm-hmm. au lieu d'être dans cette pyramide qui, on le voit dans les autres domaines, péjore les femmes.
Après, il y a quand même aussi, en tout cas dans l'étude, je ne sais pas si on peut l'appliquer à la Suisse, parce que justement l'étude n'a pas encore été faite, mais dans l'étude qui a été faite au Québec, il apparaissait que les femmes, non seulement elles étaient absentes des postes, certes, à la responsabilité, mais leurs projets avaient moins de visibilité que ceux des hommes, elles tournent moins, elles reçoivent moins de subventions, et puis la diffusion, la structuration de la diffusion au Québec, elle est surtout dominée par des programmateurs majoritairement masculins. Donc c'est aussi ça, en fait, et j'ai l'impression que... Enfin, je vois pas vraiment de différence avec ici, parce que j'ai quand même l'impression, quand je regarde des compagnies autour de moi que je connais où il y a plus d'hommes ou qui sont dirigés par les hommes, ben, veut pas, je les trouve pas meilleures que celles de femmes, mais elles tournent plus, c'est un fait. J'ai regardé sur une année, vous pouvez regarder que ce soit en France, en Suisse, ailleurs, vous prenez les compagnies où il y a des mecs, les compagnies où il y a des femmes, celles où il y a des mecs tournent beaucoup plus. Et je ne peux pas croire que c'est juste parce que c'est des plus beaux spectacles ou parce que ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment une question de qui on met en place au poste, à la diffusion, à la création, etc. Et puis le fait de conscientiser tout ça pour répartir avec plus d'égalité. Et ça veut dire, pour moi, conscientiser la chose pour donner plus de visibilité et plus de place aux femmes. Il y a un collectif en France qui a été formé justement pour ça, qui s'appelle Les Tenaces. Ça a été créé par Marion Guillez et Yaël Antoine. Puis c'est justement pour mettre en lumière, donner plus de visibilité aux projets menés par des femmes. Parce qu'il y a ce manque. Elles se sont dit, ben, nous, on va faire une plateforme. Et puis, on va dedans, chaque temps, mettre en lumière des femmes de cirque, des projets de cirque, des créations qu'elles font. Parce qu'il y a justement ce manque de visibilité. Et maintenant, ben, voilà, il y a ce collectif qui se crée en Suisse. Qui a été inauguré, je ne sais pas si on dit inauguré, mais en tout cas, ça a été lancé par Sarah Simili, Nina et puis Léa Weber, que j'ai rencontrée d'ailleurs aussi au Circus Quartier, et qui me disait d'ailleurs qu'en allemand aussi, ils réfléchissent à l'inclusivité, à l'écriture épicène, et qu'elle faisait attention à dire Circus Schaffende au lieu de dire Circus Artistin, pour justement inclure plus, en fait, la neutralité et tout le monde dans le langage. Donc, les réflexions, elles sont à tous les niveaux maintenant, que ce soit ici, ou en Suisse allemande, ou au Tessin, je pense c'est toute la Suisse, dans le milieu du cirque, qui réfléchit à ça, et du coup, qui se rassemble pour en parler. Est-ce que, Sarah, tu peux nous raconter un peu plus ce qu'il en est avec ce collectif ?
Ben, on a lancé ça, justement, avec Léa et Nina, comme ça, une idée de rassembler des femmes, et puis de voir un petit peu quelles étaient les problématiques au niveau des circassiennes. Parce que justement, on avait plusieurs conversations avec plusieurs artistes, mais on voulait vraiment faire un état des lieux et puis d'avoir un lieu où tout le monde pouvait venir et partager des problématiques et faire une sororité, en fait, une sororité circassienne. Et on a organisé ce premier chantier, c'était au mois de juillet, cet été. Et on a eu une quinzaine d'artistes présentes et une quinzaine d'autres qui se sont excusées. Donc en fait, le collectif, ça a vraiment été un gros engouement dans le secteur. Preuve qu'il y a vraiment un besoin, en fait, d'avoir une plateforme où les artistes se rencontrent. Et, malheureusement, on n'a pas pu faire ce chantier numéro 2 lors d'Encirqué, mais il sera fait en tout cas en juillet avec le report du festival. Et, voilà.
T'as participé ? Est-ce que tu peux nous dire un peu...
J'ai participé le deuxième jour. Non, c'était très intéressant. C'était la première rencontre. Du coup, c'était vraiment une première rencontre de se commencer à se connaître. Chacun a fait le tour de se présenter et de voir quelle langue on a en commun, pour dire chacun a amené ses pensées, ses réflexions, et puis on a discuté de ça. Et j'ai hâte de les retrouver.
Je pense que ça peut être une réponse un peu aux problématiques qu'on se pose, c'est-à-dire de vraiment développer l'empowerment et puis la sororité pour qu'on gagne en confiance en nous, en fait. Et qu'on puisse s'ouvrir des portes, hein, parce que chez les hommes, il y a beaucoup cette image du bon de poisson où ils se font monter dans les échelons les uns les autres. Et il faut aussi que nous, on puisse... nous aider les unes les autres, nous écouter, partager. Il y a eu énormément de thématiques qui ont été soulevées en deux jours, que ça soit justement de ce qu'on a parlé, de la vision du corps sur scène, mais aussi de la maternité dans le cirque, au niveau des différents âges, il y a des problématiques différentes. Et d'avoir cette intergénérationnalité qui était là, c'était très, très intéressant.
Ce que j'ai deux choses que j'y pense encore aujourd'hui, souvent en fait, c'était une chose, on a discuté sur d'avoir un lieu que pour la femme. Il y en avait certaines qui disaient ouais, mais il faut inclure les hommes aussi parce que comme ça on est à l'égalité et c'est bien si les hommes aussi ils veulent faire le mouvement de la femme avec. Genre, il faut pas les exclure, il faut les
prendre comme alliés.
Oui, s'ils veulent parler de ça et si ils sont intéressés, il faut laisser la place aussi aux hommes. Et il y en a certaines qui ont dit oui, mais. Moi, je cherche un lieu vraiment où il n'y a que les femmes. Vraiment un espace à nous. Ça, j'y pense encore aujourd'hui parce que je n'ai pas de solution. Moi, j'étais plutôt de côté. Non, il faut les prendre avec. Il faut, c'est chouette s'ils ont intéressé. Mais je comprends aussi que pour une fois, juste un espace pour la femme, pourquoi pas. Puis la deuxième chose était de ce qu'on a remarqué avec toutes les femmes. Bon, la plupart, que... on n'est pas si fort en faisant les métiers d'hommes. Disons, on n'a pas la connaissance. On n'a pas appris comme les hommes. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire?
Tu veux dire dans une structure de société qu'on ne nous a pas appris parce qu'on pensait qu'on n'allait pas l'utiliser?
Oui, par exemple. Et du coup, évidemment, si je suis à côté d'un homme, dans un théâtre, et il fallait peindre un truc, ou je sais pas, prendre la
perceuse.
La perceuse. Ouais. Je laisse faire l'homme, je vais pas me bagarrer, non, laisse-moi faire. Parce que je me dis, c'est clair que lui, il sait faire mieux que moi. Mais bien sûr, parce qu'il a plus d'expérience. Après, si c'est mon frère que je sais qu'il, lui, il utilise jamais, que moi, je passe plus d'heures avec la perceuse que lui, oui, je fais moi, mais voilà, comme ça, si je ne connais pas l'homme, moi je me dis, il a plus d'expérience, je le laisse faire, c'est lui qui va faire. Moi je vais regarder ou je vais tenir, je ne sais pas, la batterie ou quoi que ce soit, le câble, voilà. Ou le bois, le bout du bois, ou je tiens les vis, voilà, après je lui donne les vis, et lui, c'est lui qui va faire. Et en allemand on dit « wissen ist macht ».
Savoir égale pouvoir.
Oui.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et du coup, comme on a moins d'expérience, on utilise moins, moi je me forme pour que je peux, voilà, avoir aussi plus de sécurité. Moi, que ouais, je peux faire, je peux faire même devant un homme. Moi, j'ai travaillé sur le chantier et je peux vous dire, à chaque fois que je suis arrivée, tout le monde a laissé tomber les machines. Parce que d'abord, ils regardent comment la femme travaille sur le chantier.
Ah, waouh!
Une fois, ils savent que tu sais faire des choses. Ils sont adorables. Mais c'est clair, c'est pas évident qu'il y a une femme qui avec un tuyau sur l'épaule, qui est maigre, qui est petite, qui vient avec, dans la main gauche, une autre machine dans la main. Ça, c'est clair, on le voit pas souvent. Et j'ai senti le besoin de ce groupe, le collectif, qu'on a envie de s'équiper.
De savoir.
Pour pouvoir faire. Sinon, on laisse toujours faire les hommes. Après, oui. c'est une question d'intérêt. Ça, c'est clair.
Je suis artiste parce que j'ai envie de faire bouger des choses sur ce monde, dans notre société. Donc moi, si je vais sur scène et que je laisse mes poils, je le fais exprès dans le but de montrer autre chose. Comme vous, quand vous faites les clowns, quand vous faites... Donc nous, on a une fonction hyper importante pour la société, c'est que nous, on montre comment on peut faire, et justement on peut montrer, voilà, non seulement aux hommes, mais aux enfants, aux femmes qui nous entourent, et c'est quand même incroyable, je vous dis ça, les poils, parce que j'ai fait le spectacle en été, c'était plus théâtre, danse, etc., que cirque, mais c'est incroyable l'impact que ça a eu, ce spectacle, uniquement par le fait que c'est le rôle de femme que j'incarne, est très contraire à ce qu'on vit tous les jours. d'être soumis, d'être poli, d'être bien habillé, tous les points que tu as dit. Donc, ça montre aussi qu'il y a vraiment un réel besoin d'avoir ces figures-là, de les rôles ou de ce qu'on fait. C'est nécessaire. Et moi, pour moi, c'est bien de faire un collectif de femmes, oui, parce qu'on peut se nourrir, on peut se soutenir. Mais si on veut l'appeler combat, parce que c'est quand même venu, ça revient tout le temps, on doit prouver, on doit battre. Moi, oui, il y a tout ça, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours et c'est une attitude qu'on a. Et moi, j'ai envie de dire, je ne le fais pas non seulement pour les femmes, mais c'est parce que moi, je crois à un monde meilleur. Et dans ce monde meilleur, on a la place, tous tel comme on est et qu'on est accepté pour ce qu'on est. Et c'est pour ça, moi, j'aime aussi... C'est vrai, on doit nommer des choses, mais moi, j'aime bien aussi de dire, c'est ça que je veux mettre au centre. C'est pas le fait que je suis une femme et je me bats pour être vue comme femme, mais je veux être vue ou je veux faire bouger les choses en tant qu'artiste. Et puis, voilà, c'est pour ça que je trouve les discussions, oui, de inclure ou non les hommes, forcément. On est dans une société et ce qu'on fait, ça doit toucher le plus de monde possible autour de nous pour faire avancer les choses, pour réfléchir, pour changer les attitudes. Et nous, on a une fonction hyper importante. C'est pour ça que ça m'énerve tellement quand il y a des discussions. On ferme les théâtres parce que c'est secondaire, on n'a pas besoin. Non, on a besoin de ça. C'est justement de ça qu'on a besoin. Parce que s'il n'y a plus tout ça, eh ben, le monde, il va s'écrouler. Tous les gens qui ont des visions et qui montrent autre chose pour que ça aille mieux, c'est les artistes.
Puis en ce moment, justement, beaucoup de gens sont en train de se remettre en question parce qu'ils sont tout seuls chez eux. Puis ce serait à ce moment-là qu'on pourrait avoir un impact plus grand, mais qu'on ne peut plus rien faire. Oui, c'est triste.
C'est triste. Et ce que je trouve aussi vraiment et inquiétant, c'est encore une fois l'attitude... De dire « Ok, je reste chez moi et chez moi aussi au niveau, pas non seulement géographique, mais avec tout ce qu'on a, et je m'arrête », c'est faux. C'est justement maintenant qu'on doit faire. C'est maintenant le moment de faire un maximum de choses, avec les moyens qu'on a, mais de ne pas se laisser... Oui, on est là pour ça, et c'est notre fonction.
Mais... Est-ce que les gens peuvent survivre sans l'art, sans les spectacles? C'est ça la question.
Survivre peut-être, mais avancer autant que tu le dis, je ne suis pas sûre.
Voilà, c'était le deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec l'actu de l'été parce que malgré la pandémie, il y en a, ça reprend un petit peu, heureusement. Et c'est le festival des festivals. On commence avec le Pluskill du 9 au 13 juin à Bienne. Le Pluskill qui s'est rebaptisé cette année le Minuskill. J'imagine que la programmation sera peut-être réduite et en tout cas compatible avec les plans Covid. Ensuite, on part à Arau pour le Cirque Arau, la 8e édition du 10 au 20 juin. Et là, il y a du beau monde programmé, en tout cas pas mal de Suisses. Je vois Julian Vogel avec le China Series. C'est un diaboliste qui fait tout seul en solo sur scène et c'est très beau. La compagnie Roy Kuva avec The Empire of Fools et ça a l'air bien rock, ça promet. Le Faraway Circus avec ballet, un ballet de palette, ça a l'air très acrobatique. Et puis la traditionnelle tournée du Circus Knopf qui, après sa première à Zurich, passe au Cirque Arau. Et ensuite, on enchaîne avec le festival Encirqué du 20 au 25 juillet à Sierre, en Valais. Et puis la programmation va sortir tout prochainement. Pareil pour le Cirque au Sommet qui sera du 3 au 15 août à Crans-Montana, également en Valais. Et qui présentera sa programmation dans le mois qui vient, j'imagine, ou tout prochainement. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un très bel été.